VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le maréchal Khalifa Haftar, qui mène depuis début avril une offensive pour s'emparer de la capitale libyenne, a indiqué qu'il était ouvert au dialogue après avoir rejeté à plusieurs reprises l'appel de l'ONU à reprendre les discussions. L'homme fort de l'Est libyen s'exprimait peu avant une réunion sur la Libye prévue aujourd'hui à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Hier mercredi à l'ONU, son rival Fayez al-Sarraj a dénoncé de nouveau les ingérences de pays étrangers en Libye en citant outre les Émirats arabes unis, l'Égypte et la France. M. Sarraj a aussi qualifié Khalifa Haftar de criminel assoiffé de sang en rejetant toute possibilité de discuter avec lui. À l'occasion de la réunion sur la Libye ce jeudi à New York, la France et l'Italie espèrent avancer vers une conférence internationale qui pourrait être organisée en Allemagne pour sortir le conflit libyen de l'impasse. Poursuite à New York du débat général à la 74e Assemblée générale de l'ONU, le programme d'aujourd'hui, les interventions d'hier à la tribune des Nations Unies avec notre correspondante Dili Diko.
Au programme de cette troisième journée de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le discours du président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi prendra la parole ce jeudi pour son premier discours à la tribune des Nations Unies. Le président congolais, élu en janvier, a déjà donné le ton de son discours puisqu'il s'est dit favorable à ce que la mission onusienne en RDC reste dans le pays, une ouverture qui contraste avec la vision de son prédécesseur. Également au programme d'aujourd'hui, mais cette fois dans l'après-midi, l'intervention du chef d'État camerounais, mais aussi celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Toujours au plan africain, la journée d'hier a été marquée par le discours du président de la République centrafricaine, mais également celui du chef d'État malien, très attendu en raison de la situation sécuritaire dans son pays et dans le Sahel. Dans son allocution, le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis en avant le multilatéralisme, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, en soulignant les défis auxquels le Mali fait face depuis la signature de l'accord de paix en 2015. Faustin Archange Touadéra a quant à lui parlé des progrès modestes mais sûrs dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés en février dernier. Côté international, c'est l'intervention du président iranien Hassan Rouhani qui a retenu l'attention. Il a refusé mercredi toute négociation avec les États-Unis tant que les sanctions contre Téhéran ne seront pas levées.
De nombreuses personnes sont mortes dans la nuit de lundi à mardi dans l'effondrement d'une mine d'or sauvage dans le nord du Tchad, dans une zone livrée à la loi de différents gangs et aux parieurs illégaux. L'accident s'est produit vers la localité de Kouribougoudi, tout près de la frontière libyenne, dans la province du Tibesti, soumise à l'état d'urgence. Les secours en Sierra Leone ont mené toute la nuit de mercredi à jeudi d'intenses opérations pour extraire de nombreuses victimes prisonnières d'un immeuble en construction qui s'est écroulé dans le sud du pays. Plusieurs personnes ont été extraites dans un état critique et amenées à l'hôpital, mais aucun corps sans vie pour l'instant n'a été dégagé des décombres de cet immeuble situé à Bo, deuxième ville du pays à environ 250 km de la capitale Freetown. Plus de 80 personnes pourraient être coincées dans les décombres du chantier. Une infirmière cubaine a été placée jeudi en détention préventive pour notamment négligence et homicide volontaire après la mort dans l'incendie d'une maternité en Algérie de 8 nourrissons, devenant la 7e personne écrouée après ce drame, a rapporté l'agence APS. 8 nourrissons sont morts, certains brûlés et d'autres asphyxiés lorsque les flammes ont ravagé mardi l'hôpital mère-enfant Doued Souf dans la localité proche de la frontière tunisienne, c'est en Algérie. La diaspora mauritanienne aux États-Unis a manifesté cette semaine devant le siège des Nations Unies à New York en marge des activités de l'Assemblée générale de l'ONU. L'objectif, c'est de prendre à témoin la communauté internationale tout en rappelant au nouveau président Mohamed Ould Ghazouani l'obligation de tenir à deux ses promesses. De tenir deux de ses promesses de campagne, joint à New York par Irénée Manongo, l'un des manifestants mauritaniens, Bakary Tandja.
Lors de de son investiture. Il a promis d'être le président de tous les Mauritaniens. Il a promis d'assurer l'harmonie sociale et l'unité nationale. Et nous, en tant que noirs de la Mauritanie, victimes de graves violations des droits de l'homme, nous lui demandons de prendre certaines actions qui sont la condition sine qua non pour réaliser l'harmonie en Mauritanie.
Quelles sont ces actions que vous attendez du nouveau président, justement?
Nous demandons une réponse effective aux tueries de 1991. Nous demandons le retour des déportés. Nous demandons l'application des lois anti-esclavagistes. Et nous demandons à ce que tous les Mauritaniens soient recensés et aucun Mauritanien ne doit être privé de sa nationalité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui devant le siège des Nations Unies. Je vais demander à la masse de répondre. Est-ce que vous voulez la justice? Est-ce que vous voulez la justice?
Une chose est de manifester. Est-ce que vous avez l'opportunité de rencontrer le président?
Nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer, malheureusement. Et c'est pourquoi nous lui avons adressé une lettre ouverte qui énumère dans le détail les doléances que nous avons comme précondition pour la justice sociale en Mauritanie.
Monsieur Tandja, pour terminer, le président vient à peine d'être élu. Ne serait-il pas judicieux de lui donner un peu de temps pour régler ces problèmes qui vous tiennent à cœur?
Non, en fait, cette manifestation n'est pas une manifestation de confrontation. C'est une manifestation de tirer son attention sur les deux promesses fondamentales qu'il a eu à faire, à savoir être le président de tous les Mauritaniens, à savoir assurer l'unité nationale. Donc, pour réaliser ces deux objectifs, il faut nécessairement qu'ils prennent en compte les doléances de la communauté noire. Si, en tout cas, il nous montre des évidences de bonne foi qu'il va attaquer ces problèmes ou qu'il y ait un début d'exécution, nous sommes prêts à travailler avec lui parce que c'est notre problème.
Bakary Tandja, joint à New York. 6 associations guinéennes et internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé hier le fait que 10 ans après le massacre dans un stade de Conakry, les familles des victimes attendent toujours justice. Michel Joseph.
Le ministre guinéen de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, a assuré que la volonté politique d'organiser ce procès est sans équivoque, mais que le pays est confronté à des difficultés pratiques en passe d'être réglées. L'instruction est clôturée depuis fin 2017, mais la date du procès n'a pas été fixée. Les juges non plus n'ont pas été désignés et certains survivants sont déjà décédés. 10 ans après, les familles des victimes attendent qu'on leur rende justice, soulignent les 6 organisations de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch et Amnesty International. Le 28 septembre 2009, selon une enquête de l'ONU, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, chef de la junte de l'époque.
Les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante CEI, qui devra organiser la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, ont été dévoilés mercredi lors du Conseil des ministres exceptionnels tenu à Dimboukro, à 250 km au nord d'Abidjan. Aucun membre du principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui refuse la nouvelle structure, ne figure dans le quota de l'opposition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, de nouveaux développements sont attendus ce jeudi dans l'enquête en vue de l'impeachment du président Donald Trump avec l'audition par le Congrès du directeur par intérim du renseignement national, Joseph Maguire, qui avait d'abord refusé de transmettre aux parlementaires américains le signalement à l'origine du scandale rédigé par un lanceur d'alerte, membre des services de renseignement. Le président Donald Trump, pour sa part, a contesté mercredi toute irrégularité après la publication du contenu d'un échange dans lequel il demande à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur son rival démocrate Joe Biden. Le département américain de la justice va ouvrir une enquête contre Facebook sur des soupçons d'infraction à la législation antitrust. Cette nouvelle enquête à l'encontre du réseau social viendra s'ajouter à celle de la Commission fédérale du commerce d'un groupe de procureurs généraux conduit par celui de New York et de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Et puis en France, décès de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, à l'âge de 86 ans. L'ex-président était une figure majeure de la droite française dont la longévité a démontré, entre succès brillant et échec, a démontré une exceptionnelle capacité de rebond. Jacques Chirac fut président pendant 12 ans. Jean-Roger Bion à ce micro, prochain journal dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.